alerte, alerte. En raison de la situation, l'été est officiellement annulé. Je répète, l'été est officiellement annulé.
Quoi ? Mais c'est pas possible, l'été, le soleil, le sable, les barbecues, les nouvelles expériences. On peut pas tout annuler, c'est pas possible.
Bon, ok, mais comment on fait alors ?
Bah, je sais pas moi, à nous d'imaginer. Si belle été, l'émission estivale de Radio PFM 999, libre et sans pub. Des infos sur les festivals de l'été.
Bon bah là c'est mort.
Des sorties culturelles.
Ouais, c'est pas gagné.
Bon, on va bien trouver des trucs à faire ensemble.
Oh oui.
De la musique, des infos et des idées dans Décibel été.
Avec les Animos de Radio PFM, du lundi au vendredi de 18h30 à 19h. Bonjour à tous et à toutes sur l'antenne de Radio PFM 99.9, c'est PCH au micro et c'est une spéciale Gainsbourg puisque j'ai eu la chance d'assister à la conférence d'Edith Marc qui est guide conférencière, historienne de l'art à Lille au Musée des Beaux-Arts de Lille et aussi qui a accompagné l'exposition que le frère de Jane Birkin, Andrew Birkin, a fait de ses photos au Musée des Beaux-Arts de Calais il y a déjà de un an et demi je crois, et donc elle avait déjà fait une conférence sur les super clichés qu'Andrew avait fait de ce jeune couple en 1968 et 69. C'était d'ailleurs une affiche où ils étaient en train de prendre un petit déjeuner sur l'herbe et c'était en 1969 et c'était, on voyait toute la promesse de ce couple qui allait marquer l'histoire de la chanson française, à la fois plutôt en France d'ailleurs qu'en Angleterre, mais cette petite anglaise qui arrive, qui déboule fortuitement, hein, plus ou moins, qui sort d'un film d'Antonioni, qui fait une apparition dénudée dans ce film et est engagé dans le film de Pierre Guimblat, Slogan, et c'est là qu'ils se rencontrent les deux. Tout de suite, on va écouter une expérience qui a été faite par Rock, qui s'appelle The Serge Gainsbourg Experience, qui est un couple, Brad Scott et Celia Scott, avec des musiciens aussi français. Et c'est La Lune Rousse, le label La Lune Rousse qui a sorti ça. Et c'est étonnant. Et je voulais vous faire écouter Ballade de Melody Nelson, version anglaise. Vous allez voir, anglaise, c'est mixé. Et donc c'est Brad Scott et sa femme Celia Scott qui nous interprètent Ballade de Melody Nelson. On a toujours des passes familles à faire gagner pour la coupole du côté de Saint-Omer. C'est un passe-famille pour deux personnes, le père, la mère et un enfant. C'est valable jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas, il y a une exposition qui vient de commencer sur la Lune et les hommes là-bas. Donc c'est un planétarium 3D plus un centre historique, parce que c'était une rampe, ça devait être une rampe de lancement des V1 et des V2 pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un site assez unique à visiter. Et on vous offre au 03 21 50 99 99 des passes familiaux pour la coupole d'Elfaux. Et aussi des entrées pour le centre d'histoire d'Azincourt. 1415, c'est la bataille d'Azincourt. Là, on remonte plus dans le temps et on peut vous faire gagner des entrées gratuites. Donc, c'est Azincourt. C'est un centre historique d'interprétation. Vous avez les Anglais qui ont gagné contre les Français et c'est une bataille mémorable. Ça vaut le coup. C'est un super musée que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années et on vous fait aussi gagner des places là-dessus. On écoute tout de suite les couples Brad Scott et Celia Scott avec la ballade de Melody Nelson.
This is the story of
Melody Nelson.
Apart from me, no one ever took her in his arms. Under her thumb, ice in the sun. She was nothing but love. But her life was almost done, 'cause her days were numbered nil. Count 14 falls, 15 on call. A baby tiger was
Melody Nelson,
forever purring in the sun, just as dangerous as a child with a gun shooting me down. Melody Nelson.
Balade de Melody Nelson par le couple Celia et Brad Scott, c'est vraiment un truc intéressant. On va faire un bond incroyable, on va passer carrément l'inverse, puisqu'on va passer du côté du classique. Vous savez que le grand chef japonais a arrangé tous les titres de Gainsbourg avec évidemment Jane Birkin, qui interprétait tous les titres de Gainsbourg en symphonique. Et voilà, bon, ça n'a pas pu avoir lieu à Arras. Heureusement, ça a été remplacé par Thomas Fersen, avantageusement d'ailleurs. C'était un spectacle qui était vraiment intéressant aussi. Et donc, je vous répète que vous pouvez gagner des passes famille pour aller à la coupole à côté de Saint-Omer, pour voir à la fois une exposition sur la Lune et les hommes et l'espace, un planétarium 3D et un centre historique en rapport aux V1 et V2 qui ont été construits par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre, mais qui n'ont pas pu l'utiliser, et fort heureusement. Voilà, donc on a aussi des entrées gratuites pour le centre historique de la bataille d'Azincourt. Donc ça, c'est aussi offert si vous appelez au 03 21 50 99 99 au Radio PFM. On écoute maintenant le symphonique de Gainsbourg, et c'est par Jane Birkin et les arrangements classiques.
Bonheur de peur, qu'il se sauve, que le ciel azuré vire au mauve, pense c'est où passer à autre chose, faudrait mieux fuir le bonheur de Paul. Il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur, qu'il se sauve comme une petite souris dans un coin d'alcôve. Apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de peur, qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble dur. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur, qu'il se sauve, avoir parfois envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Fuir le bonheur de peur, qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux.
Voilà, c'était un aperçu. Malheureusement, j'ai pas le temps de vous passer en entier ce titre-là. Vous avez un superbe album qui s'appelle Gainsbourg Symphonique, avec tous les arrangements classiques de ce maître japonais. Donc, je vais vous passer maintenant l'interview que j'ai fait d'Edith Marc, qui est une guide conférencière, qui a fait une longue conférence sur le couple Jane et Serge. Et c'était vraiment passionnant. Et j'en ai fait un petit interview. Et je voulais vous passer, il y aura aussi des extraits de musique. Et je vous laisse écouter ça tout de suite sur Radio PFM, l'interview d'Edith Marc. La naissance de ce couple, c'est le film Slogan. Oui. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé avec ce film Slogan de Pierre Grimblat ?
Alors voilà, Pierre Grimblat, qui était un ami de Serge Gainsbourg, envisageait de raconter un peu sa vie dans un film qui s'appelait Slogan, qu'il a écrit en 1968, au moment où Serge Gainsbourg était en pleine rupture, en pleine désolation, parce qu'il avait cassé avec Brigitte Bardot. Et pendant ce moment de déprime, il a accepté de jouer le rôle principal de Serge Fabergé dans le rôle Slogan. Et il s'attendait à avoir une sublime mannequin américain, Marisa Berenson, voilà, Marisa Berenson. Et il a été très déçu quand il a vu débarquer Jane Birkin, qui en plus ne savait pas parler français. Alors ça n'a pas du tout marché, ils ne se sont pas entendus du tout. Comme on dit chez nous, il lui a fait voir la misère, il a très mal accueilli. Et Pierre Grimblat en a eu assez de voir que son film était ruiné, enfin, en tout cas tout le tournage était ruiné par la mauvaise entente qui régnait, la mauvaise ambiance dans le film. Donc un soir, il s'est décidé à inviter les deux énergumènes, Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Il les a invités dans un grand restaurant et il les a laissés seuls. Alors ils ont attendu qu'il arrive, il n'est jamais arrivé. Et ils ont fait connaissance beaucoup plus intimement et c'est devenu un couple. Voilà.
On est en quelle année là ?
On est en 1968, mais le film ne paraîtra, je crois, qu'en 1969.
Tu es faible, tu
Alors, pour revenir sur la carrière de Gainsbourg, il a commencé par les Beaux-Arts et les Beaux-Arts en architecture. Est-ce que vous pouvez expliquer cette période-là ?
Mais en fait, il voulait être peintre. Justement, c'est curieux, il était inscrit comme candidat libre donc en architecture. Il y restait à peine 2 ans. Mais parallèlement à ça, il a été étudiant en Beaux-Arts, mais plutôt à l'Académie Montmartre. Il a appris à dessiner, à peindre, voilà. Et peut-être qu'il trouvait que c'était un peu plus sérieux d'être architecte. On ne sait pas vraiment pourquoi. D'ailleurs, il n'a jamais été architecte. Mais ça lui a donné des bases. Et puis en même temps, à l'époque, jusque dans les années 60, les Beaux-Arts, il y avait la peinture, la sculpture, le dessin. Mais il y avait aussi l'architecture. Ça faisait partie des cours que l'on donnait aux Beaux-Arts. Ce n'est plus le cas maintenant. Quand vous apprenez l'architecture, vous allez dans une école d'architecture. Ce n'est plus enseigné aux Beaux-Arts. Mais à l'époque, on pouvait affirmer son appartenance aux Beaux-Arts quand on était étudiant en architecture. Donc quelque part, ça ne l'éloignait pas trop de la peinture, sans doute.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire. Car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Votre chanson préférée, c'est la chanson de Prévert, oui. qui est une belle histoire. Et il voulait rendre hommage au poète Jacques Prévert. Vous l'avez présenté ça, c'est un peu plus complexe que ça, cette chanson.
Ben oui, alors c'est un hommage à Jacques Prévert, bon, effectivement, et surtout un hommage aux Feuilles mortes, en fait, à l'un de ses poèmes qui a été mis en musique et chanté par Yves Montand, mais aussi par Juliette Gréco. Il voulait rendre hommage au poète, mais en même temps, il voulait faire un grand coup. Il voulait aussi pouvoir citer son nom dans son titre. Mais pour ça, il fallait l'autorisation de Jacques Prévert. Alors, il était timide, et ça, on le sait. Alors, timidement, il est allé taper à la porte de Jacques Prévert avec son papier demandant l'autorisation, donc une signature du grand homme. Il tremblait un peu quand il lui a apporté le papier. Et paraît-il qu'à 10h du matin, Jacques Prévert l'attendait, le champagne à la main. Et en disant « C'est très bien, mon petit gars, ben voilà la signature. » Et c'est comme ça que la chanson de Prévert est née.
Je ne sais pas si vous avez vu Gainsbourg, vie héroïque de Johann Sfar. C'est un biopic un peu particulier.
Oui,
qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez accueilli?
Alors moi, ce que je sais, c'est que Jane Birkin ne l'a pas très bien accueilli. Ça, c'est ce que j'en sais. Et elle a ses raisons. Je pense que ce qu'il faut rendre à César, c'est qu'effectivement, il dit des choses. C'est-à-dire qu'il parle quand même de la vie avant Jane. Il parle de sa vie avec Françoise Pancrazy, Françoise-Antoine Pancrazy, la deuxième épouse.
Qui est une princesse.
Oui. Galidine, mariée avec un prince russe, Georges Galidine. Il y a une allusion aussi à sa vie avant avec Elisabeth Levitsky. Donc, au moins, ça resitue dans le contexte de l'histoire de Serge Gainsbourg. Mais c'est peut-être un peu fantasmé. Donc, quelquefois, c'est ce qui s'écarte de la réalité qui, à mon avis, a dû déplaire et qui peut-être me déplaît aussi, enfin qui a pu déplaire à Jane Birkin.
C'est Mosnino qui est vraiment étonnant dans le rôle de Gainsbourg.
On croit, hein, à un moment donné. Physiquement, en tout cas, il lui ressemble. Ça, même les oreilles. Même les oreilles.
Tourne-toi.
Yeah.
Je sais que Gainsbourg racontait cette histoire où il montrait qu'il était fier de porter l'étoile jaune. Enfin, je ne sais pas s'il a romancé, mais vous avez expliqué quand même qu'il y avait une façon d'assumer quand même sa judéité, ce qui n'était pas évident quand même.
Alors, il y a deux façons d'assumer la judéité. Le choix du pseudonyme, ce n'est pas très éloigné de Ginsburg, et quand on réfléchit bien, Gainsbourg, ça fait encore juif. Il assume, et en fait, c'est une façon de montrer qu'il sort de sa condition et qu'il ne se réduit pas à sa simple judéité. Mais en même temps, quand on parle de l'étoile juive, il faut se souvenir que sur l'un des albums de Serge Gainsbourg, il y a, je crois, l'étoile juive. Et donc ça reste bien dans sa vie, ça reste dans son histoire. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que petit, il a été forcé de porter l'étoile juive et que sa maman, elle, a refusé de la porter, assez bravement d'ailleurs. Elle ne se voyait pas du tout porter ça. Et grâce à elle et grâce à son courage, la famille a pu survivre, grâce à Olga Bessmann.
Des bombes, ça boum sur boum sublime. Des plombes que ça tombe, un monde immonde s'abîme.
Rock around the bunker, rock around, rock around the bunker, rock around, rock around the bunker.
Ça retombe, en trombe, ça fume. Tout flambe, les tombes, les temples, exemple sublime.
Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around the bunker.
Les flammes surplombent l'abîme. Goddam, tout crame, tout tremble et tombe en ruine.
Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker.
Par plusieurs petits mensonges, mais aussi risques qu'elle a pris, elle a réussi à éviter le pire, en fait.
Elle a réussi plusieurs fois à éviter le pire, parce qu'elle est courageuse, parce qu'elle a beaucoup de tempérament, et elle était un petit peu aventurière au début de sa vie, et elle s'est passée pour une autre. Quand ils ont été arrêtés à Limoges, bon, elle n'a pas hésité à dire que c'était la femme de ménage, qu'elle était une femme de ménage, qu'elle n'avait rien à voir avec la famille Ginsburg, donc elle a été audacieuse. Et à plusieurs reprises, elle a fait face à la milice française également, avec bravoure. Donc c'était une femme que devait beaucoup admirer d'ailleurs Serge Gainsbourg.
On a aperçu un peu un tout petit peu de l'œuvre peinte de Serge Gainsbourg grâce à la famille qui a refusé de brûler les tableaux. Est-ce que vous pouvez évoquer surtout ce que possède sa sœur Jacqueline, je crois ?
Oui, alors la plus vaste collection d'œuvres d'art signée Lucien Ginsburg, c'est sa sœur aînée Jacqueline qui les possède, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous avez deux huiles, un pastel, un autoportrait et un vase peint dans les années 50. C'est 5 en tout, 5 œuvres. Et... voilà, il y a des hectachromes, comme je disais. Donc des traces de ces œuvres. Pour les œuvres qu'on a retrouvées, des vraies œuvres qui sont vraiment retrouvées, on en a une dizaine, peut-être un petit peu plus. Voilà, parce qu'il a tout saccagé. C'était vraiment une mise à sac en 1958. Mais on a quelques hectachromes par Joseph Ginsburg, donc le père de Serge Gainsbourg, qui permet d'avoir quand même une idée du style de Serge. Et un style très figuratif, mais très stylisé. Il avait vraiment son style. Et s'il avait pu percer, je pense qu'il aurait pu garder son empreinte. Il avait son style à lui.
C'est une rage qu'il avait envers lui-même, envers sa carrière de peintre frustré.
Bah, c'est vraiment un peintre frustré. Il était avant tout peintre, avant d'être musicien. C'est un bon musicien, un très grand compositeur. N'empêche qu'en premier lieu, il était peintre. Il était peintre, dessinateur, mais un bon figuratif.
Pendant 17 ans, vous avez dit ?
Il s'est essayé cette carrière pendant 17 ans, sans succès. C'est le manque de succès et la peur de la misère, la crainte de la bohème. Et puis aussi le fait qu'Olga répétait sans cesse que la peinture pouvait mener à la misère, ça l'a découragé. Mais il s'en est voulu et il a trouvé qu'il a fait preuve de lâcheté au moment où il a arrêté en fait, cette voie-là et pour se consacrer pleinement à la musique et à la chanson.
Merci beaucoup.
Merci.